Hello les switchers!
On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler sport. Et pour ça, quoi de mieux que d'inviter les sportifs autour de la table que je vais donc laisser se présenter.
Alors, bonjour les switchers, moi c'est Clara et je suis responsable du pôle LDD au BDS.
Hello, moi c'est Lison, du coup je suis responsable pôle com au sein du BDS.
Hola! Je suis Madame Omari, je suis professeure à l'ISTC. Et je suis une sportive.
Salut tout le monde, moi c'est Félix et je suis président du bureau des sports.
Et bonjour, moi c'est Mylène et puis voilà, comme d'habitude, je suis du Pôle Radio. Notre thème aujourd'hui sera sur les bienfaits du sport sur la santé mentale. Donc pour ça, on va diviser notre podcast en plusieurs parties. On va tout d'abord faire un petit jeu, ensuite on parlera de la LDD organisée par le BDS. Et ensuite, on laissera du coup Madame Omari nous expliquer son incroyable exploit concernant le marathon de New York et ses exploits également sportifs. Et puis ensuite, on pourra échanger du coup sur nos petites anecdotes sportives. Le premier jeu s'intitule « À chacun sa méthode ». Donc, je vous explique un petit peu en quoi ça consiste. Donc, je vais vous décrire une situation mentale et du coup, chaque participant va proposer le sport ou l'activité idéale qu'il ferait justement pour s'en sortir. Je ne sais pas si vous avez bien compris.
J'ai capté, je pense.
Ok, top. Du coup, on va pouvoir commencer. Alors, imaginons, tu viens de rater un examen qui est hyper important. C'est un partiel. Quel est le sport ou la situation que vous ferez par rapport à ça?
Ah, je sais.
Allez-y.
Moi, ce serait la boxe.
Ok. Ah.
Pour se défouler un petit peu.
Ah, c'est vrai que c'est pas mal.
J'aurais envie de taper dans un sac, là.
En vrai, je vais peut-être un peu rejoindre Madame Omari, mais je pense que ça dépend aussi de ton mood. En fait, ça dépend. Des fois, je vais rater un examen, je vais avoir envie d'être plus détendu et on peut partir, par exemple, sur du yoga.
Ouais.
Même si, en vrai, j'en fais... des fois, je fais des petits trucs de yoga, ça peut m'arriver. Mais je le fais plus dans le sens pour le côté étirement et souplesse du corps que plus pour le côté spirituel et bien-être, je sais pas, mais plus pour ça. Mais sinon, moi, je répondrais séance de musculation, mais aussi pour le truc de juste décharger un petit peu sa frustration, etc.
Ok. Et vous, les filles ?
Moi, ce serait la course, je pense.
Ok.
C'est des fouloirs. Je cours et juste, j'ai personne à côté de moi et je suis tranquille.
Ok, ça marche.
Ah, c'est fou, j'avais peur de te prendre ton sport, mais moi, j'aurais dit la piscine, en vrai, la natation. T'y vas et après t'es KO.
Tu noies tes problèmes.
Tu vas aussi. Non mais après tu vois, tu vas dormir direct et t'es trop bien.
C'est vrai.
On a échangé nos sports, Lison.
Ouais.
Normalement tu fais de la natation, Lison ?
Ouais.
Okay, je sais pas.
Trop bien. Depuis longtemps t'en fais ?
J'en ai fait pendant 12 ans.
Ah ouais ?
Ouais. Après j'ai arrêté 2 ans parce que j'ai eu un problème avec mon entraîneur.
Mm-hmm.
Et j'ai changé de club. Après j'ai eu un problème avec le groupe. Du coup, j'ai arrêté pendant 2 ans parce que j'étais complètement dégoûtée. Et au final, j'ai appris à aimer ça. Et
tu faisais en compète et tout ?
Ouais, j'ai fait 7 ans en compète.
Et des fois, là, tu y vas encore de temps en temps pour le kiff ?
Ouais, je vais nager. Bah, j'y vais avec les filles. Mais en fait, avec elles, je m'arrête à chaque bout de longueur, quoi. Mais après, non, sinon, j'y vais avec mon frère, mes parents et tout. Et là, je nage vraiment.
Ok, hyper stylé. Moi, je pense que je choisirais... la danse, je sais pas, genre ça me défoule de danser et tout.
Quel type de danse ?
Bonne question.
La danse, je sais pas, tu mets de la musique, tu danses.
Ok.
Il y a pas un type spécifique, mais en vrai, je sais que ça me défoule énormément et comme ça, je suis dans mon truc et voilà. Alors du coup, deuxième situation, je sais pas comment amener ça, mais c'est une sorte de surcharge mentale. Imaginons, on a une semaine où il y a plein de trucs, plein d'examens, voilà. Et on dort mal. C'est quoi le sport que vous allez faire du coup suite à ça ?
Ah, là, pour le coup, la course à pied.
Ouais.
Courir et jusqu'à épuisement.
Ouais. Ok, ça marche.
Je rejoins en vrai, mais ça peut aussi passer par la marche.
Oui.
Parce qu'en vrai, on sous-estime aussi, mais la marche, ça peut bien fonctionner parce que courir, parfois, on a la musique et ça peut un peu nous bloquer de réfléchir. Alors que marche, c'est vraiment cool de juste aller se balader et
c'est sûr. Ouais.
Moi, je dirais peut-être la natation, du coup. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu plonges dans l'eau, il n'y a plus un bruit autour de toi.
Ouais.
Et du coup, tu peux un peu rester face à tes problèmes, c'est trop bizarre à dire, mais juste tu réfléchis juste au truc et du coup, je trouve ça trop cool. Moi, ça me calme de malade.
Ok, et Félix ?
Mais perso, je rejoins Clara, du coup, plus sur le fait de... T'as pas de distraction, etc. Et juste, tu sors et tu marches et tu laisses ton esprit divaguer, etc. Et je pense que ouais, ça fait du bien. Mais okay. Même pas sportif, hein, juste vraiment se balader.
Se balader, ouais. C'est vrai que ça fait du bien avec sa petite musique ou même sans musique et juste se concentrer sur... C'est vrai que c'est hyper bien. Moi, je pense que j'aurais choisi, comme vous, la course à pied. Je sais pas, moi, je me sens vraiment dans mon truc et ça me permet de me libérer et après de mieux dormir parce que ça me fatigue totalement. Du coup, oui, la troisième situation, c'est tu te sens hypersensible sans comprendre pourquoi. Voilà. Alors, je sais pas s'il y a
un sport
exactement.
Peut-être là, du coup, le yoga, comme tu disais.
Ouais.
Où en vrai, ça te permet quand même de te recentrer. Tu te concentres sur toi, sur comment tu te sens. Après, tous les autres sports qu'on a dit avant peuvent rentrer là-dedans, mais je trouve le yoga...
c'est vrai que c'est vrai.
La relaxation, la méditation, ouais, je suis d'accord aussi.
Même le pilate aussi. Ça travaille. Enfin, je trouve que par rapport au yoga, il y a vraiment ce côté renforcement musculaire et en même temps respiration. Et j'ai l'impression que c'est un peu plus efficace. Et c'est vrai que moi, je pense que j'aurais choisi justement le pilate. Tout le monde est d'accord sur les sports un peu. Ok, parfait. Et du coup, la quatrième situation, tu veux juste t'ancrer dans le moment présent.
Moi, perso, du coup, juste mon sport de cœur, donc le basket.
Ok.
Et juste, c'est le sport que j'aime le plus pratiquer. Donc,
Et t'en fais depuis longtemps du basket ?
En fait, j'en ai fait de mes 9 ans à mes 17 ans.
Ok.
Donc jusqu'à la terminale. Et puis après, quand je suis arrivé à l'ISTC, j'ai arrêté.
Ok.
Parce que avec les cours et puis ma ville de base, c'est trop loin pour les entraînements le soir, etc. Du coup,
C'est sûr.
J'en fais maintenant de temps en temps. Enfin, avec le BDS, par exemple, on en fait, mais plus. En vrai, moi, l'aspect un peu compétitif, il me manque un petit peu. Ce truc d'avoir la pression d'avant-match, des trucs comme ça. Mais bon, c'est pas grave.
Ok.
Mais ouais, basket.
Ok, ça marche.
Moi, je dirais pas forcément faire du sport, mais là, plus le regarder.
Ok.
Je sais pas, pour trouver des frissons, je sais pas, d'une vraie compète.
Comme les JO, par exemple.
Ouais. Trouver un vrai frisson dans ça, genre juste parce que tu profites du moment, t'es avec tes potes. Puis en fait, moi, j'ai beaucoup fait aussi du sport individuel, donc j'ai jamais vraiment connu entre guillemets ce vrai truc collectif dans un truc genre en continu, parce que j'en faisais à l'UNSS au collège et tout, d'accord, mais
toi aussi t'as fait de l'AS.
Ouais.
Moi aussi
j'en ai fait au collège, au lycée, j'ai fait tout et n'importe quoi, c'était bon. et du coup, ouais, moi je dirais juste plus un truc où on regarde un sport avec ses potes et on kiffe, quoi.
Moi, c'est vrai.
Alors moi, j'aurais fait le RPM.
C'est quoi?
Alors du RPM, c'est en général, ça se fait dans une salle et c'est du vélo, mais avec beaucoup de musique, avec beaucoup de montées. Donc ça monte très fort, puis ça redescend avec des accélérations.
Ah ouais.
Et en fait, c'est le seul sport où tu sors de là, t'es complètement trempé. Ouais. Ça dure pendant une heure, ça s'arrête jamais. Et moi, j'adore faire ça.
Ok, putain, trop bien.
Moi
non plus. C'est trop cool. Toi non.
Un peu crossfit, du coup, un peu dans ce domaine-là.
C'est ça, sauf que c'est que sur un vélo et tu dois mettre des pressions ou enlever la pression. Okay. Et en fait, quand tu montes la pression, tu es en montée et tu dois vraiment forcer, forcer pendant 2 minutes, 2 minutes 30 et ça redescend en accéléré.
Ah, ouais, c'est super bien.
C'est comme si tu étais en montagne et ça dure 45 minutes avec un coach qui te brief, mais avec une musique qui est à fond. T'as l'impression d'être dans une ambiance de boîte de nuit, en fait.
Okay.
Hein, t'es dans le noir complet et...
Et tu souffres.
Et tu souffres. Tu souffres tellement que t'es super bien, quoi. Y a un bien-être.
Et puis même l'aspect efficace de la séance joue aussi dessus.
C'est ça. Parce que tu bosses le cardio énormément, puis du renforcement musculaire quand t'es en montée. Donc c'est top.
Trop bien. Moi, je pense que je dirais le cheval. Alors, j'en fais pas régulièrement, mais je sais que de temps en temps, je sais que ça me fait du bien de faire un peu de cheval. Voilà.
Non, en vrai, c'est trop bien. Franchement, l'équitation, c'est vraiment trop cool.
Voilà, on dit que c'est pas un sport, mais en vrai, moi, je trouve que
c'est bien un sport.
Donc, voilà. Du coup, on va passer au petit jeu numéro 2. Ça s'appelle le quiz dopamine. Donc, je vais poser du coup des questions. Vous allez du coup me répondre, savoir si oui ou non vous trouvez que c'est la bonne réponse. Et puis voilà, tout simplement. Alors, la première question, c'est quelle hormone est la plus associée à la sensation de bien-être après une séance de sport ? Réponse A, l'adrénaline. Réponse B, la dopamine. Réponse C, l'insuline. Ou réponse D, la cortisol ?
B.
Oui,
ouais,
dopamine. La dopamine.
Ok, et oui, c'est la dopamine. Question numéro 2. Faire du sport peut améliorer la qualité du sommeil, mais à quelles conditions ? Réponse A, le pratiquer uniquement le matin. Réponse B, ne jamais le faire après 18 heures. Réponse C, le pratiquer régulièrement, peu importe l'heure. Ou réponse D, dormir directement après l'effort.
Ah, la C. La A. Moi, je crois que c'est la A aussi.
Ouais, moi,
parce que quand je fais du sport le soir, ça me... Ou c'est peut-être juste moi, mais je suis beaucoup plus énervée en faisant du sport le soir et ça m'empêche de dormir.
Okay. En vrai, je suis d'accord, mais dans le sens où même si tu le pratiques régulièrement... Enfin, par exemple, je sais pas, le lundi, tu fais une séance à 18h et le mardi à 8h. Je pense que le bienfait que le sport apporte sur ton corps permet que tu dors quand même mieux.
Oui, ouais. Alors, je sais pas.
Du coup, y avait quoi ici comme réponse ?
Moi, j'ai dit la A aussi.
A ?
Ouais. Non, moi, la B.
Ok.
Genre pas avant 18h.
Ok.
Avant 18h aussi, ouais. Peut-être avant 18h aussi.
Alors, je suis étonnée aussi parce que la réponse est C, c'est Let's le go. Pratiquer régulièrement, peu importe l'heure.
Ah ok, tu vois.
Mais c'est vrai que, enfin, moi, on m'a souvent dit que le pratiquer avant d'aller se coucher, c'était moins conseillé.
Bon, visiblement, en vrai, c'est vrai, mais je pense que du coup, ils prennent au global.
Ouais.
Du coup, dans le sens où bah, tu pratiques du sport tout le temps, ce qui fait que bah, ton corps, il crée des choses qui te permettent de mieux dormir quoi qu'il arrive.
Ouais, c'est sûr. Alors, ensuite, la question 3. Quelle durée minimale d'activité physique suffit à améliorer l'humeur selon l'OMS ? Réponse A, 10 minutes. Réponse B, 30 minutes. Réponse C, 45 minutes. Ou alors réponse D, 60 minutes.
C'est quoi la question exacte ? C'est à partir de combien de temps ?
Ouais, la durée minimale pour que tu te sentes bien en fait.
Moi je dirais 30.
Ouais, moi, okay. Aussi. Ouais,
moi aussi. En vrai, moi aussi. Mais il y a peut-être même 10 minutes, ça doit marcher quand même.
Ouais, peut-être.
Et bah, du coup, c'était la réponse B, 30 minutes. Mais il y avait aussi 10 minutes. Alors, j'avais vu ça quelque part. Mais sinon, selon l'OMS, vraiment, c'est 30 minutes.
Ok.
Voilà. Ensuite, pour la question 4. Quel type d'activité est recommandé pour diminuer l'anxiété généralisée ? Réponse A, les sports de combat. Réponse B, le HIIT, entraînement fractionné intense. Réponse C, les sports de glisse. Ou réponse D, le yoga ou la marche rapide ?
La D.
En vrai, en fonction de tout ce qu'on a dit déjà sur les autres parties du jeu d'avant, j'aurais dit D aussi.
Ouais, normalement. J'espère.
La question, c'est...
Quel type d'activité est recommandé pour diminuer l'anxiété généralisée ?
C'est vrai, d'un côté, j'aurais bien dit la B.
Bah ouais, ça marche
en mode,
aussi.
Tu vois, fractionner et tout. Mais je trouve que, d'un côté, le fractionner, ça peut aussi te créer beaucoup d'angoisse sur ton...
Ouais.
Enfin,
ouais, c'est quand
même
traumatismes,
du stress
genre.
Pour ton corps, dans le sens physique. Donc après, est-ce que ça se répercute pas ? Je sais pas.
En vrai, si. Enfin, du coup,
alors
pas.
Du coup, la réponse, c'est...
Je sais pas, moi, je dirais B quand même.
La D. Et la A, c'était quoi, les sports de combat ?
Les sports de combat, ouais.
Ouais, non, je pense pas.
Alors, du coup, la réponse c'était la D, le yoga ou la marche rapide.
Ouais.
Parce qu'en fait, c'est des activités qui reposent sur le système de digestion et du coup qui réduisent le niveau de cortisol. Donc,
ah oui, forcément.
Voilà. Ensuite, oula, pardon, excusez-moi. Donc, question 5. Le sport peut-il réellement améliorer la mémoire ? Réponse A, non, ce n'est qu'un mythe. Réponse B, oui, mais seulement chez les jeunes. Réponse C, oui, à tout âge. Ou réponse D, oui, mais uniquement via les jeux de réflexion physique.
Moi, je dirais la C, oui, à tout âge. Parce que même, on prend l'exemple des personnes âgées, les personnes qui, qui se maintiennent, même qui font de l'exercice, etc. Bah, quoi qu'il arrive, ça travaille ta motricité et tes terminaisons nerveuses. Pardon. Donc, quoi qu'il arrive, ça entraîne ça pour ne pas le perdre. Et plus tu vieillis, plus t'en perds. Mais même si tu ne peux pas en renouveler comme nous, les jeunes, quoi qu'il arrive, ça se recrée. Mm. Bah, tu gardes quand même l'efficacité de tes terminaisons nerveuses. Et du coup, je pense que c'est ça.
Ok, ça marche.
Ouais, je suis d'accord aussi.
Moi, j'aurais dit pareil aussi.
On fait confiance à Félix.
Normalement, ça, c'est bon.
Et donc, du coup, la bonne réponse, c'était la réponse C. Parce que l'exercice physique stimule l'hippocampe. C'est une zone du cerveau qui est liée à la mémoire et à l'apprentissage. Et même chez les personnes qui sont du coup âgées, l'activité physique régulière ralentit le déclin cognitif. Voilà. Ensuite, question 6. Lequel de ces supports, lequel de ces sports a démontré un effet antidépresseur comparable à celui d'un traitement médicamenteux dans certaines études ? Réponse A, le tennis de table. Réponse B, la course à pied. Réponse C, le golf. Ou réponse D, l'équitation.
Ben moi, je vais répondre la course à pied.
Ouais, je pense. Je
crois que j'ai pas un regard objectif. Mais...
Du coup, oui, c'était la réponse B, la course à pied.
Ouais, je pense qu'on a tous fait l'expérience.
Ça marche bien.
Si on court,
C'est, en fait, ça agit sur l'activation du circuit. Alors, on dit c'est dopaminergique. Je ne connaissais pas ce mot-là. Bon. Ensuite, question 7. Qu'est-ce que le runner height? Oula, j'espère que je le prononce bien. Réponse A, une méthode de respiration pour courir plus longtemps. Réponse B, un état de transe médiative en courant. Réponse C, une sensation d'euphorie déclenchée par les endorphines pendant la course. Ou alors réponse D, le moment où on court plus vite sans s'en rendre compte.
Je sais pas, je crois que j'aurais dit la B, mais...
Ou la C.
Ouais, je sais pas.
Je sais pas trop.
Puis que Félix, il a tout le monde depuis le début.
Peut-être la C en vrai, mais peut-être la B aussi. Okay. Les deux peuvent aller en vrai.
Ok, c'est votre dernier mot ?
Ouais.
C'est la A.
Et c'était la réponse C, t'as raison Félix.
On gagne tout, c'est pas possible.
Et on gagne un truc ou pas à la fin.
J'ai un petit chocolat si tu veux.
C'est bon.
Bah écoutez, je crois qu'on a terminé les questions. On va pouvoir passer maintenant à la chronique du BDS concernant la LDD. Du coup, bah, je vais vous laisser en parler pour l'organisation. Pourquoi justement la course à pied, selon vous, ça attire autant de monde? Votre regard justement sur le sport avec le mélange de bien-être mental et bien évidemment l'importance d'une association de sport à l'école. Voilà, je vous laisse la parole.
Bah écoute, je vais peut-être commencer sur la présentation de l'île de départ.
Ouais.
Du coup, c'était la 6e édition cette année. Et cette année, on a travaillé... moi, j'étais responsable de pôle. Et avec moi, il y avait Louise qui a travaillé. Elsa qui était en deuxième année. Et Lou en première année. Et ensemble, on a vraiment fait une organisation d'événements, mais de A à Z. Donc en cherchant les partenaires, en cherchant l'association à qui on allait reverser des dons. Parce que nous, on est à but caritatif. Donc c'était vraiment l'idée d'avoir une association qui veuille aussi s'impliquer dans le projet. Donc c'est ce qu'on a fait. On a reversé 2500 euros à l'association Laurette Fugain qui lutte contre tous les cancers du sang.
Trop bien.
Et ils sont venus aussi sensibiliser à l'école sur cette thématique-là. Donc c'est vrai que c'était un gros projet et cette année ça a pris beaucoup d'ampleur parce qu'on était 750 participants au total.
Ah ouais, c'est énorme.
C'est le record.
Non, vraiment, c'est le record.
Ouais, en vrai, chaque année ça se développe et là c'est le plus.
C'est incroyable, vraiment.
On aurait même pu faire plus.
Mais non,
j'ai reçu je sais pas combien de messages en me disant ouais, je peux pas avoir de dossard, et tout, j'en pouvais plus, mais non, en fait on a bloqué quoi.
C'est un projet qui se développe vraiment au fur et à mesure. Chaque année, il y a beaucoup plus de participants. L'année dernière, il y avait 500 à peu près, 250 de plus. L'année prochaine, 1000 peut-être.
C'est incroyable, vraiment.
Et du coup, je pense que ça rejoint aussi ce que tu as dit par rapport à la course à pied. En vrai, on voit que là, sur les réseaux sociaux, c'est un truc de malade, comment ça prend de l'ampleur. On a plein de run clubs qui nous ont, republiés, etc. Et franchement, quand on voit l'engouement des gens qu'il y a eu...
La communauté running, elle est vraiment très forte.
Elle est très forte et ça a pris énormément d'ampleur. Et je pense que c'est... Alors oui, notre événement, il réussit parce que ça fait plusieurs années que ça se fait, parce qu'on commence à être connus un petit peu là-dessus, mais aussi parce que on a bien communiqué. Donc bravo au Polcom.
Et surtout aussi parce que le pôle LDD a organisé ça.
C'est ça. Et je pense que d'année en année, on va aussi monter en gamme sur l'événement. Genre là, on a proposé des choses qui n'étaient pas forcément proposé avant. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça va plaire un peu plus. Après, Félix, pour l'importance d'avoir un bureau des sports l'importance d'avoir à l'école, je pense. Ouais.
Et je voulais aussi revenir sur un petit truc par rapport à la communauté running, etc. Nous, on l'a vu par rapport à notre projet. On est aussi bénévole, en fait, en soi, les fonds et l'argent qu'on génère, nous, le BDS, c'est en grande partie par le fait d'être bénévole sur des courses, donc comme le semi-marathon de Lille, l'Urban Trail, le meeting de Liévin, etc. Enfin, plein de choses comme ça, qui ont permis déjà à nous, de récolter des fonds, mais aussi également, parce que moi personnellement, le running, c'est pas trop mon sport en vrai.
Ok, ouais.
Genre, j'aime bien courir, mais qu'il y a un but, je cours pour quelque chose. Tu vois.
C'est ça, je comprends.
Donc je vais rarement sortir et courir juste pour courir.
Ouais.
Mais ça m'a permis aussi de découvrir, en tout cas personnellement, mais je pense aussi à pas mal de personnes du BDS en étant bénévole sur ces courses, ce sport et tout ce qu'il y avait derrière. Et quand tu as fait toutes ces courses en tant que bénévole et qu'à la fin, tu as ce projet d'année que évidemment le pôle mais aussi l'asso organise tous ensemble, t'as vu ce cheminement de quand j'étais bénévole il se passait ça, etc. Et là maintenant c'est notre projet à nous qui se déroule.
Bien sûr.
Donc en vrai c'était vraiment cool. Okay. Et pour l'importance du bureau des sports à l'école, en vrai, enfin je pense que tout le monde sera d'accord sur ça, le sport c'est juste quelque chose de, enfin heureusement qu'il y a le sport.
Oui,
en vrai
tout à fait,
enfin c'est genre super important. Et que ça transmet tellement d'émotions, que ce
c'est
soit
ça.
Toi personnellement, pour te sentir bien dans ton corps, te sentir bien avec les autres, etc. Mais aussi, comme elle disait tout à l'heure, Lison, j'aime bien regarder du sport.
Ouais.
Il y a regarder, le pratiquer. Et c'est je sais pas, tu rencontres des gens, c'est genre humain. Enfin, je sais pas, il y a trop d'émotions que le sport peut transparaître. Et nous, c'est un peu notre but, le temps d'une année, à travers des activités sportives. Donc que ce soit par exemple les matchs qu'on a organisés, la course qu'on a organisée, que les gens se que les gens je sais pas, je vais me répéter,
ouais,
encore
se sentent bien,
bien et qui vivent ces choses là au travers du sport.
Exactement.
Je sais pas comment tu l'as senti toi, Lison, cette année au BDS, etc.
En vrai, moi j'ai trouvé, déjà premier semestre on a quand même eu un hyper bel engouement sur les sports qu'on proposait, mais pareil, je vais répéter ce que Félix a dit, mais en fait je trouve le sport ça crée tellement d'émotions et ça rassemble tellement les gens qu'en fait ne serait-ce que, je sais pas, là par exemple l'équipe de foot, de basket et tout, en fait ça, ils sont tous aussi plus appris à se connaître entre eux et tout, et ça les a de ouf rassemblés. Et je trouve que c'est hyper important dans une école, surtout que nous on est une école où on n'est pas 600 à la promo, quoi.
Ouais.
On est une promo de 160. Aller dans l'école, on n'est pas beaucoup, quoi. Donc je trouve que c'est hyper important d'avoir un esprit un peu familial et tout, du coup.
Ouais.
Moi, je l'ai perçu un peu comme ça.
Ouais,
c'est...
complètement.
Parce que tu vois, il y a le bureau des étudiants, mais en soi, nous, avec le sport, il y a plein de gens, rien que même les supporters qui viennent juste voir le match, etc. Ils se rendent compte que voilà, il n'y a rien. Genre, le sport, il enlève toute barrière, il n'y a plus rien à côté de ça. On est juste deux personnes sur un terrain ou juste une personne qui regarde le sport actuellement, et on vit pour la même passion, si on peut dire. Donc, c'est vraiment...
Ouais, c'est vrai que je vous rejoins totalement là-dessus. Le sport, c'est que de bonnes choses positives, et que ça soit dans le social ou même dans son bien-être en soi, tu peux pas... Enfin, je veux dire... Il n'y a rien de négatif dans tout ça, et c'est super bien. Est-ce que vous êtes fiers ou pas de ce que vous avez fait, parce que du coup, ça va se clôturer cette année, ce que vous avez fait au BDS?
Alors moi, pour le pôle et tout, moi, je suis trop contente parce qu'il y a des belles perspectives encore en plus. Mais je trouve qu'on a atteint vraiment des buts qui sont canons. Enfin, on a vraiment fait un truc... On a reçu des messages en mode « c'est limite du pro, ce que vous nous avez offert » et tout. Donc franchement, ça fait très plaisir, et je pense qu'en tant que sportif, on est content de courir ou de faire notre sport, mais on est aussi content de pouvoir permettre à d'autres personnes de le pratiquer. Et je sais que nous, le pôle, on a vraiment essayé de proposer un événement comme nous, on aurait aimé y participer aussi. Et je pense que ça aide, là-dedans. Et franchement, non, là, je pense que c'est un carton plein, quoi, ce qu'on a fait.
Non, mais même, je trouve que, ne serait-ce que pas parler de LDD, mais même le BDS en général, cette année, je pense qu'on a créé un bel engouement, parce que, ne serait-ce que sur les after-work et tout, à chaque fois, on a eu un bon nombre de personnes qui sont venues. Donc, franchement, je trouve qu'on a créé quand même une belle solidarité entre toute l'école. Même moi, LDD, comme Clara le disait, Même il y a des gens, ils ont fait des TikTok, des reels et tout, qui ont posté sur Insta. Alors que d'habitude, c'est sur des grosses courses qu'on voit ça, comme sur le SMI et tout.
J'avais vu une influenceuse renaise qui avait fait ça. Et donc, c'est incroyable, vraiment, c'était trop bien.
J'étais tellement fière que j'ai republié.
Elle l'a envoyé dans le groupe BDS.
Si j'ai commencé à envoyer à toute ma famille et tout.
C'est trop bien, vraiment, c'est top. Ok. Mais c'est vrai que ouais, moi aussi, de mon côté, j'ai entendu plein de gens apprécier justement la course que vous avez organisée et que ça soit même les sports aussi que vous avez organisé tout au long de l'année. C'est vraiment trop, trop bien. Moi, je sais que je faisais un peu de yoga et franchement, c'était trop cool. Donc, merci beaucoup le BDS pour ça. Alors, du coup, on va passer à la chronique spéciale Madame O'Marie. Alors, du coup, on aimerait savoir un petit peu votre parcours sportif, mais également comment ça s'est passé pour le marathon de New York. On aimerait aussi savoir pourquoi vous vous êtes mis au sport, vos tout débuts, et quel impact ça a eu sur votre santé mentale. Puis ensuite, si vous avez une petite routine sportive que vous appliquez maintenant. Et enfin, votre petit conseil ou... des petits conseils feel good, voilà.
Alors le début sportif. Alors j'ai toujours adoré le sport quand j'étais plus jeune. Ben, je faisais de la S, donc je faisais du badminton, de la natation, du basket. J'étais un peu trop petite, donc j'ai abandonné. Et à la fin du collège, je faisais beaucoup d'escrime aussi. C'était ma passion. Ouais, j'étais vraiment passionnée d'escrime. Et puis, arrivé au collège, j'ai arrêté pour des raisons économiques, parce que c'est vraiment un trop gros budget. Donc, mes parents m'ont dit, là, il va
l'escrime,
falloir...
L'escrime, c'est assez cher.
Ouais, enfin, à l'époque, c'était vraiment cher. Mm-hmm. Et c'était quand même réservé à une élite. Ouais. Vraiment, c'était très peu de personnes et c'était pas très connu. Donc, j'en ai fait, je pense que jusqu'en cinquième. Et puis après, j'ai arrêté. Et arrivé au lycée, c'est vrai que j'ai complètement laissé tomber plus ou moins le sport. Mmh. J'adorais ça, mais je faisais ça de mon côté sans rentrer, sans être assidue.
Ouais.
Et c'est vraiment à la naissance de mes enfants.
Trop bien.
Je voulais reprendre le sport, mais sans jamais oser. Et j'ai rencontré une copine par hasard qui m'a dit « Ah, je me suis inscrite à un club d'athlétisme juste à côté de chez toi. » Et je dis « Ah ben non, mais c'est l'occasion parce que moi, je rêve de faire de la course à pied, sauf que toute seule, j'y arrive pas. Mm. » Et je me suis inscrite. Donc, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je fais ça, que je me suis inscrite dans un club. Et mais j'ai toujours rêvé, moi, quand j'étais plus jeune, mon rêve, c'était de faire le marathon de New York. Donc,
oui.
C'était toujours un rêve et je me dis, un jour, je le ferai. Sauf que c'est resté dans un coin de ma tête. Et puis là, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de reprendre. Et le fait d'avoir des enfants, d'être dans un train-train quotidien, le boulot, etc. C'était vraiment le seul moment où je me disais, c'est mon moment à moi, 3 fois par semaine. Et du coup, j'allais au sport 3 fois par semaine, j'allais courir.
Ok, trop trop bien. Et justement, du coup, comment est venue l'idée du marathon de New York pendant ces 10 ans ?
Alors, je pense que toutes les personnes qui courent pensent au marathon de New York parce que c'est le Graal. C'est vraiment le plus beau marathon du monde. Il est considéré comme tel. Et en plus, c'est une loterie. On ne peut pas avoir des dossards comme ça. Donc, ça le rend encore plus
sélectif.
Et je m'étais toujours dit, j'aimerais trop faire le marathon de New York. Et ça faisait peut-être 3-4 ans. Je disais tous les ans à des copines, j'ai envie de faire le marathon de New York. Puis elle me disait, c'est le marathon de New York, quoi, donc non. Et puis quand j'ai eu 50 ans, j'ai eu 50 ans, je me suis dit, écoute, t'as 50 ans, c'est peut-être le plus beau cadeau que tu peux t'offrir. Paye-toi le marathon de New York, après tout, voilà.
Trop
bien. J'ai cherché et j'ai trouvé j'ai pas réussi à avoir à la loterie parce qu'il faut s'inscrire.
Okay.
Et donc j'ai envoyé des mails un peu partout en disant, je veux faire le marathon de New York, est-ce qu'il y a des dossards ? Donc j'ai reçu que des refus.
Mince.
Et puis un jour, je reçois un mail en disant, écoutez, vous nous avez sollicité, on a eu un désistement, il reste une place.
Incroyable.
Il reste 2 places, donc il faut absolument que vous trouviez quelqu'un parce que c'est une chambre double, mais sinon, on vous garde une place si vous voulez... Donc ça, j'ai envoyé ça à tout le monde qui veut faire le marathon.
Le rêve.
Il n'y avait personne. Et puis en parlant avec une copine par hasard, Puis elle me dit, non mais sérieux, tu veux faire le marathon de New York? Je dis, bah ouais. Puis elle me dit, mais c'est mon rêve aussi. Donc,
trop bien.
Donc voilà, c'était parti, quoi. Je me suis inscrite et puis il me restait 8 mois pour me préparer. Donc,
ok.
Donc je me suis lancée comme ça dans l'aventure.
Et elles ont été intenses, ces 8 mois de préparation?
Ah bah c'est 8 mois où tu sais que tu vas réaliser ton rêve. Mm. Et donc tu dis, à partir de là, tous les jours tu penses. Tous ouais. les jours tu penses à ça et ta vie est conditionnée... pour le marathon de New York. Quoi.
Et la volonté de s'entraîner et tout, elle est décuplée un peu, non?
Ah ouais, mais c'est vraiment décuplé. Et t'as une motivation que... Enfin, moi, j'ai eu une motivation que j'ai jamais eue, que j'avais jamais eue auparavant.
C'est-à-dire ah ouais
que, ah oui, mais j'allais courir. Enfin, je me levais à 6 heures du matin, j'allais courir. Je devais courir 2 heures d'affilée, j'y allais après une journée de travail. Si c'était 21 heures, à 21 heures, après une journée, j'allais courir. C'était vraiment... Et j'ai tout changé. J'ai réussi à changer toute mon alimentation. Je n'ai pas mangé de sucre pendant
ça a dû
mois.
Être dur.
Bah, en fait, non, parce que...
Il y avait le but.
Il y avait le but.
Ah ouais,
c'était okay. Vraiment... je me suis dit, putain, je vais chercher le ouais. graal, je vais l'avoir. Et c'était le fait de dire, je vais vivre un rêve. C'est vraiment ça. Et... pour pas que ça se transforme en cauchemar, et ben il faut tout mettre
en place.
Ouais, tout mettre en place. Et puis j'avais écouté des podcasts de personnes dont c'était le rêve et ça s'est transformé en cauchemar parce que par manque de préparation ou parce que ben il y avait eu de la pluie ce jour-là et il y avait plein d'éléments. En fait, on se rend compte qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte et pour réussir le marathon parce que c'est quand même 42 kilomètres.
Ouais, c'est énorme.
Mais c'était votre premier ?
Non, c'était mon quatrième.
Ok.
C'était mon quatrième marathon, mais c'est le plus beau. Je crois que ça restera le plus beau en termes d'émotion, en termes de... c'est le seul marathon où, à chaque pas que je faisais, je me disais, t'es en train de réaliser ton rêve. T'es dans un rêve. C'est comme dans ton rêve. Et c'était même au-delà de ce que j'avais espéré parce que tout était... parfait. Enfin, c'était encore mieux que ce que j'avais pu imaginer.
Même sur votre temps, etc.
Même sur mon temps, même sur... et le fait que je suis arrivée, j'étais encore en pleine forme. J'ai pas eu si mal que ça. J'ai vraiment eu des douleurs à 35 km, ce qui est quand même inespéré. Mais je pense que c'est la foule, c'est les New-Yorkais, c'est la ville, les gens sont incroyables. Et la préparation.
Ouais. Bien sûr.
Et je me suis rendu compte qu'en fait... tout est possible, mais que courir juste 3 fois par semaine, ça ne suffit pas pour réussir un marathon, que ça va au-delà de ça et qu'en fait, il faut vraiment changer son mode de vie.
Le
sommeil, enfin dormir. Enfin, moi, je suis insomniaque, donc c'est hyper compliqué. Et là, je me suis régulée vraiment pour dormir régulièrement, pour ne pas être fatiguée, pour ne pas sortir, pour pas manger n'importe quoi et boire n'importe quoi. Donc, c'est génial, quoi. Okay. C'est vraiment...
Ok.
Félicitations, franchement.
Ouais, bravo. Et du coup, vous avez parlé du temps. Vous l'avez fait en combien de temps, du coup, le marathon?
Alors, je l'ai fait officiellement. Alors, avec mon Strava, j'ai mis 4h37. Donc,
trop bien incroyable ouais.
Et en temps officiel, j'ai mis 4h45, mais j'ai 500 mètres de plus, ce qui fait quelques minutes.
37, c'est très
4... bien. On va garder le Strava.
Ouais. Ah ouais, mais quand j'ai vu mon truc Strava, j'étais super contente. Donc, c'est mon meilleur temps. C'est mon meilleur temps sur un marathon, alors que c'est le plus dur, le marathon, parce qu'il y a un dénivelé.
Oui, c'est ce que j'avais entendu.
Il y a pas mal de dénivelé. Il faut vraiment se préparer. Et là, c'est vrai que la préparation, c'est que j'avais écouté pas mal de podcasts et j'avais lu beaucoup, ce que je ne fais jamais normalement sur une course. Et donc là, je savais exactement à quel moment ça allait monter, à quel moment ça allait redescendre. Je savais où ça allait être difficile. Donc, je me suis préparée aussi. J'ai préparé la course sur le parcours. Ce que je ne faisais jamais parce que je trouvais ça ridicule. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper important de bien mémoriser la course et de savoir à quel moment c'était... le plus compliqué, à quel moment il n'y avait pas du tout de supporters parce qu'on est dans des ponts.
Ah oui,
donc
bah
on
oui.
est complètement tout seul. Et tout ça, le fait de le savoir, ça m'a quand même bien aidé.
Ouais, de savoir gérer ce qui va se passer par la suite
exactement.
Et pendant la course.
Ouais, exactement. Ouais.
Ok, trop bien. Est-ce que là, actuellement, vous avez une routine sportive?
Je dois dire voilà. la vérité.
Ah oh, oui, vraiment, hein, s'il n'y a pas, il n'y a pas.
Alors si, parce que je continue à courir, par exemple... J'essaye de faire au moins 40 km par semaine.
Donc ok, là, trop exemple, bien.
Cette semaine, j'ai fait 43 km.
Un petit marathon par semaine.
Voilà, c'est ça.
Il n'y a pas de souci.
Donc, j'essaye de courir le minimum, c'est 3 fois par semaine. Là, je me suis inscrite. Enfin, je me suis inscrite en revenant du marathon de New York, j'avais l'impression d'être Wonder Woman. Alors, du coup, on m'a dit, ça te dirait pas de faire un trail de 44 km.
Allez, hop.
J'ai dit, ok. Et donc là, c'est dans 6 semaines, sauf que je me suis pas préparée comme il faudrait. Mm-hmm. Et c'est dans 6 semaines, donc là, je me prépare maintenant. Enfin, là, j'essaye de courir 44 km du coup par semaine, parce que là, on est à un dénivelé de 1500, je pense.
C'est énorme.
C'est dans les Ardennes, donc.
Ah ouais.
Donc, je reprends une routine donc sportive.
Okay.
Par contre, en termes d'alimentation, j'avoue que non, pas encore. Donc
non.
Là, il faut que je commence aujourd'hui.
Ok.
Pour aujourd'hui, ça va, j'ai pas trop craqué. Mais c'est vrai que. Et là, je me rends compte qu'avec autant avec New York, c'était hyper facile. Autant là, comme je suis pas.
Ouais, il y a moins ce truc.
Il y a moins, ouais. Là, j'ai pas d'objectif de temps.
Juste
pour passer
profiter,
un bon
voilà.
Donc, là,
après, c'est bien. C'est bien aussi,
oui,
en soi.
Oui, c'est bien aussi. Ouais, c'est bien. Là, je me dis, j'ai pas d'objectif. Je veux juste profiter du moment et faire un trail de 44 km et puis marcher s'il faut marcher et puis courir quand. Voilà. Mm. Mais je me prépare au marathon de Valence pour le mois de décembre.
Trop
là,
bien.
Je sais que je vais être et le semi de Rome.
Oh, trop
octobre.
Bien
ouais.
Génial.
Que des belles destinations. Ah,
ouais. Tant qu'à faire, ouais.
Et moi, j'avais une petite question par rapport au marathon et au semi. Est-ce que à chaque fois que vous vous lancez, vous avez une barrière, que ça soit, enfin pas une barrière, mais vous avez un objectif de temps ou pas?
Oui.
Ouais.
Ouais. Et sauf pour New York, et je pense que c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Ça, c'est mon vécu.
Oui.
Mais par exemple, la première fois que j'ai fait le marathon, c'était le marathon du Mont-Saint-Michel. Et je connaissais pas du tout ce qu'était un marathon. Et je pense que tant qu'on n'a pas fait de marathon, on sait pas ce que c'est. Mmh. Et j'ai été vraiment hyper optimiste.
Ouais.
Et je pensais que ça allait y passer. Et je me fixais 4h15, 4h30. J'étais vraiment très sûre de moi. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est mon pire marathon parce qu'à 20 km, je me suis écroulée. Et puis ensuite, j'ai voulu continuer, mais tous les 2-3 km, je tombais dans les pommes, en fait.
Ah ouais.
Donc, il fallait qu'on me réanime, qu'on me lève les pieds, etc. J'arrivais plus à boire, j'arrivais plus à manger. Enfin, c'était les 21 km les plus longs de ma vie. Mais je voulais le finir, donc je l'ai fini. Mais... J'ai mis, je pense, mon premier marathon, j'ai mis 5h45.
Ouais, mais vous n'avez pas profité, en fait, de ce marathon-là?
Alors, de 0 à 21, si, super.
Ouais, mais sur la
mais
suite.
Mais j'étais allée beaucoup trop vite. Et psychologiquement, quand je voyais que je n'arriverais jamais à faire 4h30, mon mental, il n'était pas du tout là. Et j'ai complètement flanché. Et c'est là qu'on se rend compte de l'importance du mental. Et j'étais tellement sûre de faire 4h30 que quand je voyais que je ne ferais jamais 4h30, que je ne ferais jamais 5h, que je ne ferais jamais 5h15, mon mental, il était complètement à terre. Et donc, à chaque fois, je m'évanouissais. À chaque fois, je voulais le terminer, mais je savais que le temps, ce n'était pas ça. Et ça m'a complètement... Ça m'a complètement
cassé.
Ouais. Donc, je pense qu'il faut s'entraîner avec un objectif de temps, mais qu'une fois qu'on a fait l'entraînement et qu'on a tout donné, se dire bon, maintenant j'y vais. Il y a forcément des paramètres qu'on ne peut pas gérer. Mm. Et peu importe le temps, il faut profiter. Parce que sinon on ne savoure pas. Barcelone, pareil, pourtant, je ne m'étais pas bien préparée à Barcelone. Mm-hmm. Et quand j'ai franchi la ligne, ça paraît bête, hein, mais j'ai pleuré. Mm. J'ai pleuré parce que j'étais vraiment déçue de moi. Et j'étais pas contente et j'ai l'impression d'avoir perdu j'étais en dépression
à ce point-là
ça paraît bête mais comme j'ai pas géré ma course comme je voulais j'ai pas fait le temps que je voulais.
Vous êtes une compétitrice?
Apparemment ouais. Et donc tout le monde trouvait ça trop bête de pleurer alors que t'es à Barcelone, tu fais un marathon, tu l'as fini, t'as fait un temps plutôt honorable. Mais comme c'était pas le temps que je m'étais fixé, j'ai trouvé aucun plaisir.
Mais je comprends tout à fait vos émotions. J'ai l'impression que c'est un peu les émotions des coureurs. Ils ont un objectif en tête et des moments quand on n'arrive pas à l'atteindre, ça frustre énormément. Et je comprends tout à fait le fait d'être arrivée en pleurant et de pas être bien.
Vous n'étiez pas fière de vous,
J'étais pas fière de moi. Je m'en voulais parce que je m'étais pas bien préparée et je trouvais ça nul. Et avec du recul, je trouve ça trop bête d'avoir pleuré parce que
il y a la fatigue aussi qui fait que.
Mais non, je me sentais nulle en fait, j'étais pas du tout, alors que tu venais de courir 42 km, je les avais finis, Mais j'ai pas réussi à prendre de plaisir. Ni pendant la course, ni en arrivant. Quand je voyais que je ferais pas le temps que je voulais, j'étais hyper déçue et ça a gâché mon séjour aussi. Hein.
Ouais, bah, je me souviens.
Ouais, donc c'est pour ça que je pense que tout faire, comme j'ai fait pour New York, en fait, où j'étais vraiment dans un autre mood, en fait. Je me suis dit, tu donnes tout pendant la préparation et après, tu profites. C'est vraiment ce que j'ai fait. Et finalement, c'est beaucoup mieux parce que tu profites de chaque moment et il faut que le temps, ce soit secondaire.
Ouais, et puis, je pense qu'il faut alterner aussi des événements où on y va pour un chrono.
Exactement.
Ouais. Et des où on y va aussi pour l'ambiance, juste l'ambiance, pour profiter et tout. Et je pense que c'est ça aussi qui, dans la longueur du sport, et là, je pense que ça peut rejoindre aussi tous les sports dans le global, c'est qu'il faut aussi parfois arriver à faire des choses aussi que pour le plaisir et pas toujours à chercher plus, toujours à chercher plus loin. Parce que ça, c'est un truc aussi des coureurs, c'est toujours vouloir plus, toujours vouloir plus loin, alors qu'à un moment, il faut aussi...
Il faut juste profiter du moment et se dire...
Vraiment. Après, ça dépend aussi des gens. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus performants sous pression. D'autres, à l'inverse, ça va faire complètement l'effet inverse et ils vont perdre un peu leurs moyens, etc. Ouais, ça dépend.
Ouais, je pense que... Et le mental, c'est hyper important de ne pas flancher quand on voit que... Vous savez, quand on fait des marathons ou même des semis, il y a toujours des personnes auxquelles on peut s'accrocher. Mm-hmm. Ils ont un indicateur de temps et ça vous permet de faire ce temps-là.
Oui,
je ne sais plus comment on appelle.
Des lièvres.
Des lièvres. Et moi, je voyais passer les différents lièvres. Donc,
affreux. C'est sachant que les lièvres, c'est très traître. Hein, parce que moi, sur un de mes semis, j'arrive à la fin, je voulais faire moins d'une heure cinquante et là je vois le lièvre d'une heure cinquante qui me double, je commence à pleurer en continuant de courir, je commence à pleurer et au final je suis arrivée en moins d'une heure cinquante, donc en fait
bien rapide
mais du coup tu sais ça met la pression alors qu'au final faut aussi se faire confiance à soi.
J'ai détesté les lièvres, c'est horrible.
Ça a deux côtés, tu vois, ça a ce côté au début de course où tu dis je suis avec eux et ce côté à la fin où tu dis oh c'est pas possible.
Mais justement, j'ai l'impression que ça renforce le côté très compétiteur, le fait de mettre des lièvres. Donc parfois, ça peut être bien comme ça peut être...
C'est bien. Et même pour quand on ne sait pas garder son rythme, ça nous oblige à courir à un certain rythme. Mais c'est vrai que quand on est fatigué, qu'on voit les lièvres passer, qu'on se dit je ne ferai pas ce temps-là. Ah non, c'est sûr, je ne ferai pas ce temps-là.
Ouais.
Donc ça c'est déprimant.
Tout à fait. Et moi, j'avais une petite question sur New York. Comment vous avez justement géré le décalage horaire, parce que enfin il y a la fatigue du coup qui s'ajoute avec le décalage horaire.
Alors oui, il y a la fatigue, mais en fait le décalage horaire, je trouve qu'il est plus dur en arrivant sur le retour, mais quand on arrive sur New York, on est alors moi je me souviens, on est arrivé donc on n'avait pas dormi et j'avais réservé un match de basket.
Okay.
Le soir même. Donc, donc on s'est dit, on est là pour 5 jours, donc on va profiter. Donc j'avais pris un match de basket et c'était le seul créneau, c'était vraiment en arrivant.
Okay.
Donc on n'a pas dormi, on allait directement à un match de basket, donc on était vraiment hyper fatigués. Mais je pense qu'il y a l'euphorie, on est partagé entre, on est à New York, on va profiter.
C'est sûr.
Et il faut qu'on se repose parce qu'on a fait un marathon. Mais c'est vrai que j'avais lu aussi pareil sur le sommeil, il disait que même si on faisait une nuit blanche juste avant ou 2 jours avant, ça n'avait pas trop d'impact sur les résultats du marathon, mais c'était vraiment bien dormir durant toute la préparation. Enfin, le jour du marathon, j'ai pas dormi, j'ai fait quasiment nuit blanche, c'était impossible de fermer l'œil.
Ah je me dis bien.
On est là, on essaye de on refait la course, enfin on fait la course dans notre tête, on s'imagine, on espère arriver à l'heure, etc. Donc moi j'ai dû dormir une heure le jour du marathon.
Ah ouais, c'est vraiment peu.
Ah non, c'est impossible de dormir.
Ouais.
On est complètement ailleurs, donc...
C'est sûr. Et est-ce que, quand vous êtes arrivé sur la ligne d'arrivée, enfin, pas sur la ligne d'arrivée, mais sur la ligne de départ, il y a eu un stress que vous n'avez jamais ressenti?
Alors, un stress, non.
Non.
Un bien-être, une émotion forte.
Ouais.
C'est magique. Il y a une chanteuse qui vient, et pour chaque départ, qui chante l'hymne américain.
Oh, trop bien.
Non, aucun stress.
Ok.
C'était que du bonheur. Et d'ailleurs, c'est le seul où il n'y a pas du tout. J'ai pas eu du tout d'angoisse. J'ai profité de chaque moment et je savais que c'était quelque chose d'exceptionnel que je vivais. J'en avais conscience. Et c'était. J'essayais de prendre chaque seconde à chaque fois. C'était pas du tout de stress. C'était vraiment 200% que du bonheur. Quoi. C'est magique.
Ok. Ok, très bien. Et du coup, on a une autre petite question à vous poser. Je vous retrouve. Hop. Oui, est-ce que vous avez des petits conseils justement bien-être là, je vois feel good. Donc,
alors, pour
des conseils.
Vous, dans votre routine.
Ou dans votre routine, ouais, c'est ça.
Alors, moi.
Pour aimer le sport. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de. Comme il y a quand même pas mal de gens qui détestent le sport. Et. Bon, c'est. Voilà. Mais des conseils justement pour faire aimer justement ce sport.
Alors, je pense que déjà, il faut être avec les bonnes personnes.
Ouais.
Je pense que déjà, si tu détestes le sport, il ne faut pas partir seul. Il faut vraiment essayer d'allier ça. Par exemple, si tu as envie de courir, mais que tu n'aimes pas courir, il faudrait le faire avec des personnes avec qui tu vas pouvoir passer aussi un bon moment et tu vas l'associer à un moment de bien-être, de partage, et de rigolade, etc. Et se forcer. C'est-à-dire, pas juste tester une seule fois, mais se dire, voilà, je me donne un mois pour essayer de... d'en faire une routine,
ouais.
Parce que sinon, on lâche l'affaire. En général, le sport, ça demande quand même d'être exigeant et ça demande de la discipline et ça demande de se forcer. Par exemple, en hiver, on trouve toujours beaucoup plus de coureurs. Par exemple, en été, avec les beaux jours, en hiver, on est très peu dehors. Mm. Et donc, je pense que ça s'apprend au fur et à mesure. Et je pense que, ouais, avoir les bonnes personnes, se fixer des objectifs aussi, participer à des compétitions... Parce que les émotions sont
décuplées.
Mais oui, je pense que courir juste pour courir et participer à des compétitions, et c'est autre chose, hein, je pense. On devient vite addict à ça. Je pense que vous l'avez vu à l'île de départ, c'est une émotion, c'est trop bien. Je veux dire, quand on fait une course ou même d'autres compétitions, on est bien pour tout le week-end, toute la journée, on y repense. Il y a les regards, les encouragements des personnes, le partage, tout ça, c'est beaucoup de bonheur.
Ouais, c'est sûr. Et est-ce que vous aurez un petit conseil à donner pour quelqu'un qui se met soit à un semi ou soit à un marathon ?
Alors, soit un semi, soit un marathon. Bah, je pense que courir 3 fois par semaine.
Ok, très bien.
Avec 3 types d'exercices différents. Je pense qu'il faut absolument faire du fractionné obligatoirement parce que c'est ce qui nous fait progresser. Et aussi s'habituer à courir très lentement. Je pense que courir très lentement, c'est courir vraiment avec la possibilité d'avoir une discussion sans être essoufflé, mais même courir à 6:30, 7, parce qu'on travaille, on travaille le muscle du cœur.
Oui.
Et beaucoup pensent qu'il faut courir systématiquement vite pour courir le jour de la course. Et en fait, non, il faut vraiment alterner, faire beaucoup de fractionnés, courir très lentement et courir longtemps. Ça veut dire sortir au moins 1h30, 1h15 dans la semaine, c'est le minimum, voire 2 heures. Et l'alimentation et le renforcement musculaire.
Ouais.
Je pense que ça, c'est. Il faut faire 3 séances de course à pied et faire au moins 1 séance de renforcement musculaire pour pouvoir progresser.
Okay. Après ça, pour moi, c'est tous les petits conseils techniques, mais juste un conseil dans l'état d'esprit. Là, je parle du coup plutôt pour nous, qui sommes connectés tout le temps sur les réseaux. Vraiment, faut y aller mollo. Genre, vraiment, quand je vois des gens qui sont là en mode. Ça fait un mois que je me mets à la course à pied et je fais un semi. Il faut aussi savoir prendre par étapes.
Oui, et, tout à fait.
Et on fait aussi petit à petit. Enfin, on ne peut pas se préparer pour un semi en un mois, sinon c'est le risque de blessure, risque énorme de ces choses-là. Donc moi, je dirais aussi le prendre petit à petit. Et si on n'y connaît rien du tout, se faire accompagner, c'est pas mal.
Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que quand tu commences un sport, tu peux être directement très hypé par le fait de... Enfin, c'est les débuts. Tu as l'impression que plus tu avances, plus tu t'en sors et tout. Et en fait, des moments, quand on arrive sur, par exemple, des grandes distances comme le semi-marathon que tu viens d'évoquer, on risque de moins profiter et, comme tu dis, risque de blessure. Donc, c'est vrai que, ouais, il faut prendre le temps et surtout kiffer ce qu'on fait comme sport. Parce qu'en fait, ça se trouve, il y en a qui font de la course à pied mais qui n'aiment pas forcément ça et qui préfèrent, je ne sais pas moi, le basket, etc. Et voilà.
Après, le fait d'y aller tranquille, ça va avec tous les sports. Enfin, là,
je pense.
Disons à la natation ou Félix à la muscu, c'est la même chose. Enfin,
tu
peux pas tout faire d'un coup, quoi.
Et surtout aussi, il y a un truc dans notre génération qui est un petit peu dangereux, qui est tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, comme elle disait Clara, que ce soit sur TikTok, sur Insta, où maintenant les gens et les jeunes vont se comparer directement à ce qu'ils vont voir. Et il y a beaucoup de sports qui sont démocratisés grâce justement à ces réseaux sociaux. Et c'est trop bien d'un côté, Mais il y a aussi un peu un aspect dangereux où les gens veulent directement le résultat qu'ils voient en fait sur TikTok ou sur Insta. Mais c'est pas possible, en fait, ça n'existe pas comme ça. Donc il faut aussi savoir pourquoi toi tu le fais, pourquoi tu veux te mettre à sport, les bonnes raisons et tes objectifs. Et tu pourras pas avoir tel physique de ce mec. Ou enfin, on nous ment beaucoup aussi sur les réseaux.
Ah oui, bah vraiment, tout à fait.
Et je sais que, en tout cas, moi personnellement, je suis passé par là. J'allais beaucoup, beaucoup à la salle avant, là j'y vais beaucoup moins. Mais j'avais ce truc de. Content, genre. Ouais.
Tu veux ressembler à la personne.
Mon physique, je l'aime pas, etc. etc. Et en fait, m'être mis à la salle m'a limite fait perdre plus de confiance en moi que j'avais de base, tu vois.
D'accord, ok.
Et du coup, je me suis dit, waouh, Félix, il y a un petit problème, tu vois. Et après, j'ai travaillé sur ça, là. Ça va mieux. mais en vrai, il faut faire attention et je pense que c'est bien de le dire aussi.
Ouais, je pense là, à Strava, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des gens qui payent.
Et en fait, ça renforce encore plus le côté
juste se comparer tout le temps et être le meilleur, alors qu'en fait c'est pas le but, quoi. Le but, c'est de kiffer ce qu'on fait. Donc c'est dommage. Voilà, est-ce que vous voulez échanger sur autre chose ou pas?
Comme vous.
Je crois que tu avais parlé des anecdotes, non?
Oui, tout à fait. Oui, exactement. Si vous avez des petites anecdotes sportives à raconter.
Non, mais en gros, il y a certaines piscines, en gros, l'eau, vous savez, elle tombe dans des genres de gouttières sur le côté.
Oui.
Ouais.
En fait, c'est horrible parce que tu as fait la fiche.
Et tu vomissais dedans?
Ben, en gros, quand tu faisais des. Non, moi, je l'ai fait une fois, je crois. Non, mais quand tu fais des sens de lactique et que juste ton entraîneur, il te pousse jusqu'à ce temps que tu finisses comme une larve là par terre, genre, t'as pas le temps de sortir et aller aux toilettes, quoi. Du coup, tu vomissais dans les. Dans les gouttières là à côté, c'est dégueulasse.
Moi, j'ai trouvé ça fou. Hein.
Moi, c'est vraiment horrible. Mais...
Et après, tu nages dedans?
Mais non, parce que c'est justement l'eau sale qui est après refiltrée et qui repart dedans. Donc, non, je vomissais pas dans l'eau non plus, ça va pas. Enfin, je l'ai fait qu'une fois. Hein. Je suis pas. Non, j'étais vraiment
à bout. Genre, ça existe, tu vois.
Ouais.
Mais il y a un truc comme ça, je pense. Enfin, j'en ai
après, j'ai l'impression que tout ce qui est compétition en natation et tout, c'est un peu.
C'est hyper énervé. Ouais, franchement. Je pense ma pire expérience, ça a été j'ai fait un record de l'heure où en gros t'es dans le bassin et tu tournes pendant une heure sans t'arrêter. Et je suis pas du tout une nageuse de fond, donc c'était horrible pour moi, genre j'en pouvais plus. Et ce jour-là, j'étais à bout, en plus j'avais pas dormi, j'étais fatiguée. Enfin, c'était horrible. Et en fait, c'est des séances comme ça où juste, c'est tout bête, mais des fois je faisais des 50 fois 100. Ça me dérangeait pas parce que j'aimais bien ça, parce que c'était une courte distance. Mais dès que c'était des longues distances, ça me saoulait. Et après. Ça dépend en fait de ce que tu préfères faire, mais t'as des séances qui sont plus hardcore parce que c'est plus ce que tu préfères, mais t'as des séances qui sont plus soft parce que. Enfin, c'est trop bizarre à dire.
Oui,
mais...
alors que ça va être l'inverse pour une personne.
En fait, c'est pareil dans tous les sports, c'est quand t'aimes faire un truc, bah en fait, même si c'est dur, bah t'aimes le faire et tu le kiffes.
Ouais.
Comme partout, je pense.
Ok, ok.
Toi, Félix, t'as pas d'anecdote à la salle?
J'ai des anecdotes.
Ou au basket
à la salle,
et tout.
Ou au basket, je sais pas. En vrai, j'ai des anecdotes. En fait. Moi, j'étais vraiment genre matrixé de la salle, mais genre vraiment, vraiment. Genre, je faisais 15 kilos de plus que maintenant. J'étais vraiment un gym boy, tu vois. Genre, j'allais et tout. Et en plus, j'étais encore un peu jeune, j'étais en terminale. Et après, en première année, j'ai continué. Et après, bon, j'ai un peu arrêté, etc. Mais en vrai, tant mieux. Là, je commence à reprendre, mais plus sainement, en tout cas. Et il y a eu ce truc de. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là. Ou tu vois, si tu veux prendre du muscle, tu dois, enfin en tout cas pour ma part, fallait faire une prise de masse du coup. Donc faut que tu aies un apport calorique plus élevé que ce que tu consommes dans ta journée, sinon bah juste tu prends pas en poids ou voilà. Après bien sûr, faut que tu t'entraînes à côté, sinon juste tu prends du gras. Et il y a eu ce truc, ce petit conflit avec les parents évidemment, parce que j'étais le mec relou à la maison qui était jamais content de ce qu'on mangeait, qui c'était pas assez protéiné, c'était pas assez.
Il
y avait pas assez de calories et du coup en vrai, je pense toute ma terminale, je m'embrouillais avec ma mère et tout par rapport à des trucs. Ils ont fait plein d'efforts pour moi d'ailleurs. Et je finissais mes repas toujours tout seul, à juste manger, 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 manger. Voilà, petite anecdote comme ça. Mais maintenant, je fais plus ça, je mange juste ce qu'on me sert.
Mais tu sais que Félix, ce gars-là, il y a plein de garçons qui étaient à peu près dans la même situation que toi. Hein. Et moi, je me rappelle, pareil, période terminale, il y avait un mec qui ramenait le matin mais un sandwich avec plein de viande et tout, juste pour eux. Mais c'est impressionnant pour prendre justement en masse.
Moi, je ramenais mes shakers et
tout. Ah, mais oui,
c'est
Et c'est impressionnant, il y en avait plein où ils voulaient vraiment prendre de la masse absolument. Et je pense que ouais, c'est peut-être le côté réseaux sociaux et tout qui a joué énormément, parce que ramener un sandwich au poulet dès le matin, faut le faire quoi.
Ouais, c'est
clair. Bah, et moi, si je voulais rassurer un peu les débutants, dire qu'on est tous passés par là, donc moi j'ai fait de la danse au début. Pendant 10 ans, j'ai fait de la danse.
Et après, 10 ans, elle a rigolé. On la voit pas, là, podcast, mais 10 ans, elle a rigolé.
J'en ai fait aussi.
J'étais hyper investie dans la danse. Et après, je suis passée à l'athlétisme. Donc, j'arrive au stade un peu débutant, genre première terminale. Et en fait, je commence, mais tu sais, genre comme tout le monde, avec les premiers prix des quêtes. Vraiment, genre, j'avais qu'un legging, j'avais pas de shirt. Le t-shirt du club et tout, genre. Et je me pointe sur ma première compète. Et vraiment, genre... Mais je pense qu'il n'y avait pas plus miteux que moi. Et vraiment, j'étais dernière. J'étais là avec mon legging, alors que tout le monde était avec son short de compétition. Et donc, c'est pour dire que vraiment, juste commencer comme vous voulez. De toute façon, vous allez bien évoluer aujourd'hui. Heureusement que je ne me suis pas arrêtée aux 800 et aux 1500 mètres, parce que sinon, je pense que je serais encore bloquée. Et au final, aujourd'hui, du coup, comme Madame Marie, moi, je vais m'apprêter à courir mon premier marathon. Et courir en legging, sans pointe et en chaussures Decathlon ne m'a pas arrêtée. Donc, il faut persévérer. Je pense que c'est vraiment le mot.
Ok, trop bien.
Tu fais quel marathon alors ?
Je vais le marathon de la Loire.
D'accord.
Oh, trop cool.
C'est quand ?
C'est le 11 mai.
Hey, c'est bientôt là.
Oh, tu stresses un peu ou pas là ?
Ça paraît un peu réel maintenant, ouais. Mais en vrai, je me prépare depuis janvier, du coup,
Ouais.
Confiante.
Ça, et comme je disais, étape par étape, j'ai fait plusieurs semis, oui, plusieurs fois, etc. Oui. J'ai pas...
Non, mais elle est prête. Hein. Elle est prête.
Les étapes.
Tu vises un chrono ou pas ?
Eh bien, oui et non. Ouais. Voilà, moi, je me dis aussi, il faut profiter, donc je veux profiter. Normalement, ça devrait passer sous les 4 heures, mais on veut pas...
Ouais. Ah, canon.
C'est hyper bien.
Mais, oui, mais c'est, tu vois, c'est les aléas aussi du direct, comme dit Madame O'Marie. Mmh. Donc,
t'as quand même un bel objectif. Hein, franchement, je te dis, c'est un bel objectif.
Oui, mais le premier objectif, c'est de le finir.
Ah oui, tout à fait, exactement.
Ouais, tu te prépares pour moins de 4 heures et puis tu verras le jour même.
C'est ça, vraiment.
Pour pas être déçu, mais c'est top.
C'est ça.
Okay. Vous avez une petite anecdote, vous, madame ?
Je réfléchis, petite anecdote.
Mais même sur les marathons, il y a plein de choses. Enfin, il se passe plein de choses, donc il doit forcément y avoir une anecdote.
Alors,
dans le public, je sais pas.
Un fou dans le public. J'essaye de me souvenir. Non, j'ai pas de. J'en aurais peut-être une en me souvenant.
Après, vous nous avez déjà raconté l'anecdote du 20 km et que vous étiez les jambes en l'air parce que vous étiez. Vous saviez pas bien.
Ah oui, là, ouais.
C'est une anecdote.
Ouais, ça, c'est vraiment. C'est, je crois que c'est mon pire souvenir. Hein.
Bah ouais, voilà.
Et puis, je pense que j'ai été aussi prétentieuse parce que ce jour-là, on avait. La veille du marathon, il y a un coach qui était venu nous donner les derniers conseils, etc. Puis, tu vois, si vous voulez pas faire. Si vous voulez pas faire 5 heures, il va falloir. Et puis moi, je me souviens, j'avais regardé ma copine et j'ai dit 5 heures.
Qu'est-ce qu'il croit, lui ?
Non, mais vraiment, et là, tu te dis, et je revoyais pas. Et je me voyais, je me disais, mais vraiment, je crois que t'as
été trop prétentieuse. Vous voyez son visage pendant le
truc. Ouais. Puis j'avais dit à ma copine, non, mais quand même 5 heures. Et puis pourquoi pas 5h30 non plus. Et voilà, et là, tu te dis, ça me paraissait tellement. Le minimum, c'était vraiment 4h30. Pour moi, j'étais sûre de faire 4h30. Puis, et j'avais dit ça en rigolant. Et puis finalement, tu te dis, putain, t'as mis 5h45, quoi. Donc, oui. Que c'était après coup. Mais ça te sert de leçon. Mm. Parce que vraiment, j'avais fait des malaises, etc. Et puis, c'est comme ça. Je suis quand même contente de l'avoir fini après coup. Mais j'étais un peu... j'avais l'air un peu con.
Ça arrive. Mais après, désolé, je vais finir sur vraiment... C'est banal ce que je veux dire, mais dans le sens où le sport, c'est un peu comme dans la vie, tu passes par des échecs pour après aller vers la réussite. Donc en vrai, c'est hyper bateau ce que je viens de dire, hein, mais je
mais
le
non,
pense
mais
vraiment.
C'est vraiment ça.
Vas-y, Félix.
Mais c'est vraiment ça.
Ouais, tout à fait. Moi, en petite, j'ai pas grand chose. Juste mon premier semi-marathon. À la fin, je l'ai un peu mal vécu parce qu'en fait, il y a une fille, mais adorable vraiment. Elle voulait le faire en 2h15. Et bah, moi, c'était un peu mon objectif et tout. Et du coup, j'avance. Et il restait quoi, 100 mètres, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, je dis, est-ce que je me mets à sprinter ou est-ce que je cours tout doucement? Et en fait, j'ai pas eu le temps de réfléchir parce que la fille m'a pris par la main. Elle a couru avec moi. Et en fait, elle a couru tellement vite que moi, j'ai pas pu suivre. J'étais trop fatiguée. Les 15 km, ils m'ont mis trop mal, vraiment. Et je suis arrivée. Et la honte. Vous voyez, quand vous arrivez, il y a des photos et tout. On vous prend en photo. Et moi, j'ai vraiment tout un album photo de moi en train de m'écrouler par terre au bout de ma vie, vraiment. Et du coup, il y a... Comment ça s'appelle c'est pas la Croix-Rouge.
Si, c'est la Croix-Rouge
qui sont venus me chercher. J'étais au bout de ma vie. J'étais sur la chaise. Le truc, c'était super bon.
T'as fait les 2h15 ou quoi? T'as fait les
2h15. J'ai fait les 2h15, du coup. Mais non,
ça vaut la photo.
Ouais, bah les photos sont... Voilà. On est en podcast, donc on va aller voir, mais... Donc voilà pour mon anecdote. Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut conclure sur ce podcast. N'oubliez pas, pour ceux qui nous écoutent, de bouger, car le sport ne soigne pas tout, mais il reste l'un des meilleurs antidotes gratuits contre le stress, l'anxiété et bien évidemment les coups de mou. Pensez-y, même 15 ou 30 minutes, comme on a vu, suffisent parfois à vous remettre d'aplomb mentalement.
Bisous les switchers.